l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes. Pulsan, bienvenue dans le monde des étoiles avec l'émission de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bienvenue chers amis pour cette nouvelle émission Pulsan en direct de Radio Alternante 98.1 à Nantes, 91 à Saint-Nazaire. Vous savez, comme votre émission préférée, tous les lundis des semaines paires à 21h après le journal. Alors que de quoi parlerons-nous ce soir? Eh bien, nous vous parlerons de la planète Mars, car bientôt elle va se rapprocher de la Terre. Ce sera une nouvelle opposition de Mars dont va nous faire parler Frédéric Brion, comment l'observer. Aussi, au grand sujet de ce soir, la saga, la folle histoire des calendriers, car vous le savez, le calendrier, c'est une aventure fabuleuse qui a duré des siècles. Thierry Monro va vous en parler en détail à propos justement de la venue de François Suager pour sa conférence sur la petite histoire des calendriers. Et bien sûr, nos rubriques habituelles, les actus astro par Stéphane Lenay, le ciel du mois par Frédéric Brion. Et tout de suite, je crois que l'actualité, c'est que nous sommes le lundi de Pâques. Alors, on a des petites choses à dire sur Pâques, mon cher Thierry.
Tout à fait, Daniel. Bonsoir à tous. Vous savez tous que Pâques, c'est une fête religieuse au départ, avant que les gens mangent des œufs en chocolat. Mais pourquoi des œufs en chocolat, vous diriez-vous? Les cloches, tout le monde a entendu parler des cloches de Pâques, mais par contre, pourquoi des œufs? Pourquoi pas des étoiles ou alors des fleurs?
Ouais, oui, pourquoi pas des étoiles en chocolat?
Bah oui.
D'abord, il y aurait 5 branches. Alors, pour les familles qui ont 5 ou 10 membres, ça serait formidable.
Ça serait un peu compliqué. Alors, tout commence avec les cloches. Les fameuses cloches de Pâques. Au Moyen-Âge...
Nous sommes là, donc nous n'en faisons pas partie.
Non.
Elles sont toutes parties pour Rome.
Voilà, justement. Au Moyen-Âge, une coutume voulait que les cloches soient condamnées au silence entre le jeudi et le samedi saint. Alors, comme elles n'avaient pas le droit de sonner, elles partaient en pèlerinage et elles allaient voir le pontife, le pape, à Rome pour se faire baptiser. Et après, elle revenait au pays.
Pour se faire bénir, peut-être. Parce que,
bénir. Bénir plutôt que baptiser, oui, tout à fait.
Elle faisait une escapade, elle en profitait.
Tout à fait. Elle allait se balader. Et elle ramenait avec elle des œufs, les fameux œufs de Pâques. Ce qui ne nous répond pas à notre question.
Oui, parce pourquoi des œufs? On ne sait toujours pas.
Pourquoi des œufs? Et en chocolat en plus. Alors, la légende, comme je l'ai dit, date du Moyen-Âge. Et le chocolat ne fut rapporté du Mexique qu'en 1519. Ce qui veut dire qu'au départ, les œufs n'étaient pas en chocolat.
Mais en sucre, non?
Non, c'était des vrais œufs.
Des vrais œufs.
Alors, pourquoi des vrais œufs? Eh bien, Pâques, c'est une fête chrétienne en mémoire de la résurrection du Christ. La date de Pâques, elle, est fixée en 325 par le Concile de Nicée, au premier dimanche après la pleine lune qui a lieu le soir du jour du printemps, soit aussitôt après. Je me réexplique. Il y a une pleine lune qui se...
Vous prenez le 21 mars.
Le jour du printemps.
Si vous prenez la lune qui vient après.
Qui vient après, eh bien ça sera le dimanche qui viendra après la pleine lune.
Le premier dimanche qui suit la première pleine lune après le jour du printemps.
Alors justement, vous aurez plus d'explications tout à l'heure je parlerai du calendrier. En parlant du calendrier, d'ailleurs, on va vous poser une petite question pour gagner des places pour la conférence de François Suager.
On rappelle la date quand même.
Qui se déroule vendredi 27 avril.
Voilà.
Donc en fait, c'est une grande conférence grand public.
En Bretagne.
Et François Suager va vous parler du calendrier. Donc la question pour pouvoir gagner des places, que veut dire le mot calendrier? Parce qu'on en parle tout le temps du calendrier. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça désigne en vrai,
hein? Voilà. Que veut dire le mot calendrier?
Du moins à l'origine.
À l'origine, plus maintenant, bien sûr. Il suffit pour ça de nous téléphoner au 02 40 93 86 62.
26 62, pardon, mon cher Thierry.
02 40 93
26 62. 62. Voilà. On est fâché avec les chiffres.
Ouais, bon, c'est pas que c'est un peu compliqué. Oui. Vous répondez à la question « Que veut dire le mot calendrier ?» Vous gagnez des places pour la conférence. Donc, je reprends un peu au niveau de Pâques.
On répète la question vite fait?
Tout à fait. « Que veut dire le mot calendrier ?» Et vous téléphonez au 02 40 93 26 62. Et à ce moment-là, vous avez une place gratuite donnée par la Société d'Astronomie de Nantes pour la conférence.
Vous téléphonez au 02 40 93 26 62.
Tout à fait. Alors, Pâques, comme on l'a expliqué un peu tout à l'heure, est une fête mobile. C'est-à-dire qu'elle alterne entre le 22 et le 25 avril.
Pour les raisons de pleine lune, printemps, tout ça, oui.
Mais le jour de Pâques marque enfin, en fait, la fin du carême. Ça n'a rien à voir, c'est un peu par rapport à la fameuse mi-carême. Mais en fait, à l'époque du carême, pendant 40 jours, les chrétiens ne mangeaient pas.
Ils jeûnaient. Enfin, ils mangeaient, mais je crois très très peu.
Alors, ils mangeaient pas de viande, ni d'œufs.
Ah, voilà.
Le problème, c'est que pendant ces 40 jours, les poules, elles continuent à pondre.
Oui, après, il fallait les manger, les œufs. Il
fallait bien les écouler. Et puis, une famille de 40 jours de ponte, ça pouvait pas s'écouler complètement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les paysans du coin faisaient une grande fête en donnant les œufs qui n'étaient pas pourris, parce que les premiers qui avaient été pondus 40 jours, je n'explique pas dans l'état qu'ils étaient. Donc, après, les œufs qui étaient comestibles, ils les donnaient à tout le monde.
En Chine, ils attendent les Pâques suivantes.
Pour tout à fait. Ouais. Et donc, en fait, c'était une grande fête. Et à un moment, au 19e siècle, dans les villes, bien sûr, il n'y avait pas de poules, donc il fallait bien faire la fête aussi, ils ont pris. Un pâtissier a eu la bonne idée de mettre du chocolat. Et bien sûr, maintenant, on mange des œufs en chocolat.
C'est une belle histoire. Ne manquons pas de vous rappeler à chaque fois des choses amusantes. Ça fait partie de l'astronomie, ça. C'est un peu l'histoire de l'humanité.
Surtout par rapport à Pâques, tout à fait.
Oui, puis le rythme du temps. Ce qui a été rythmé, le temps a été rythmé par l'astronomie, les étoiles. C'était notre première horloge. Avant qu'on ait des montres au poignet, il a bien fallu nous baser sur le temps cosmique.
Tout à fait.
Et donc, ça génère de belles histoires. Merci Thierry.
C'est ce dont nous parlait François Saguerre, parce que c'est vrai que le calendrier, c'est assez compliqué.
Voilà, parce que tout est comme ça dans le calendrier.
Voilà, et tout est en fonction des astres.
C'est aussi, il a fallu rendre les choses opérationnelles, précises, pour que ça puisse coïncider. Donc, c'est toute une histoire de métrique, en quelque sorte, du temps. Alors, juste encore une petite nouvelle. On n'a pas grand-chose comme nouvelle, si ce n'est ce que va nous apprendre Frédéric tout à l'heure dans le ciel. Mais je rappelle qu'il y a en ce moment même une exposition sur les météorites au Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, à cette occasion, je vous rappelle que dans ce cadre-là, la Société d'Astronomie de Nantes, avec le Planétarium, organise des soirées d'observation publique de la Lune, qui reste un astre merveilleux. Donc la prochaine aura lieu samedi le 5 mai. Donc il y en aura deux autres après, en juin et juillet, mais je rappelle que la prochaine.
Tout à fait. Donc le 5 mai, c'est une observation derrière le planétarium.
Au square Moisan.
Ouais, c'est juste derrière.
Alors la dernière, on l'a un peu ratée. Tout le monde annonçait mauvais, mais enfin, n'écoutez jamais la météo. Pardon à nos confrères de la météo, mais je crois que ce n'est pas de votre faute. Je crois que c'est vraiment
le
temps.
C'est très complexe.
Voilà, le temps est chaotique.
Donc sauf s'il pleut des cordes, là, ce n'est pas la peine de venir, mais même si ça peut être plus ou moins couvert, vous pouvez toujours venir le samedi 5 mai pour profiter du ciel. On vous montrera la lune et puis tout ce qui va aller avec.
De très beaux instruments. Donc, sauf si pleut des rayons de lune, n'hésitez pas à venir, bien sûr. Alors voilà, place premier de notre grand thème, puisque nous allons vous parler de la planète Mars. Vous savez que le système solaire reste encore en grande partie inconnu, enfin à la fois connu et méconnu, eh bien nous avons toujours des choses à apprendre et ensuite ne serait-ce que l'observation qui reste quelque chose de merveilleux de voir en direct ces planètes qui nous entourent. Voici là notre premier thème, l'observation de Mars. Alors, mon cher Frédéric, tu vas nous parler beaucoup de cette planète. Alors, toi, tu es un grand observateur, tu ne rates aucun événement astronomique et tu vas nous dire pourquoi est-ce qu'on va observer Mars prochainement et qu'est-ce qu'on va voir.
Qu'est-ce qu'on va voir? Beaucoup de choses, je pense. Bon, on va, je dirais, approche d'une période favorable pour l'observation de Mars. Bon, il faut savoir que, je dirais, l'observation de Mars en elle-même est souvent pour l'astronome débutant un peu décevant parce que Mars est souvent très très éloigné de la Terre, c'est-à-dire qu'elle revient en opposition tous les deux ans.
Opposition, il faut rappeler que c'est quand elle est au plus près de la Terre.
C'est quand elle est au plus près de la Terre. Bon, la définition de l'opposition, c'est quand le Soleil, la Terre et Mars sont alignés. Mais c'est aussi, la période où Mars est au plus proche de la Terre.
Je peux faire un petit rappel quand même, Frédéric, tu me pardonneras, mais la planète Mars, rappelons qu'elle est à 200 millions de kilomètres à peu près du Soleil. Elle tourne autour du Soleil avec un rayon à peu près de 200 millions de kilomètres. Elle se trouve donc derrière la Terre par rapport au Soleil. La Terre est à 150 millions. Donc Mars est à 50 millions. L'orbite de Mars est à 50 millions de kilomètres de nous. Mais selon l'emplacement qu'occupe Mars sur cette orbite, il est soit derrière le Soleil par rapport à nous à ce moment-là. Ça fait 200 millions de kilomètres plus 150, ça fait 350 millions de kilomètres. En revanche, lorsque Mars est juste derrière la Terre, du même côté que nous par rapport au Soleil, là, il n'y a que 50 millions de kilomètres et quelquefois moins. Donc, c'est ce qu'on appelle une opposition.
Je dirais non. Le plus court, c'est 56 millions de kilomètres. L'opposition la plus favorable, oui,
là,
c'est 56
millions. Là, tu chipotes.
Ah, c'est pas le plaisir.
C'était juste pour le plaisir de me contredire, mon cher Frédéric.
C'est un peu plus que ça, je dirais.
Bah, c'est la meilleure.
Pour cette année, on sera à peu près à 67 millions de kilomètres.
Oui, parce que toutes les oppositions ne sont pas aussi favorables.
Voilà. Ouais. On a une opposition favorable, je dirais, à peu près tous les 10-15 ans, quoi. Quelque chose qui est vraiment, vraiment favorable.
Je me souviens de la dernière, c'était dans les années 90.
La dernière très favorable, c'était en 1988.
Ouais. Voilà. Elle était énorme, Mars.
Voilà, et la prochaine, je dirais, très très favorable, c'est pas celle malheureusement de cette année, mais c'est celle dans deux ans, en 2003.
Ça va, dans deux ans.
Voilà, là on approche.
On sera encore là, il faut espérer.
Je dirais très très rapidement et... celle-là sera déjà d'un, je dirais d'un bon calibre, quoi. Mais je vais pas trop en parler de l'opposition en elle-même, mais plus de l'observation ce soir. Je pense que Régis Larcher le fera mieux lors de la prochaine émission le 30 avril, où là, il s'attellera à développer un peu toutes les caractéristiques de cette opposition.
Oui, parce que ce qui est intéressant quand il y a une opposition, c'est qu'on voit des détails, on voit des calottes polaires, on voit des ombres sur Mars, certains pensaient que c'était des végétaux, et en fait, ce sont des nuages de poussière, en quelque sorte.
Ça peut être des nuages de poussière, ça peut être tout un tas de trucs. Donc là, je vais revenir un peu dessus, mais bon, revenir sur l'intérêt que présente Mars à ces périodes-là, c'est que la planète a un diamètre apparent qui est, je dirais, assez conséquent du fait de sa proximité, et c'est là qu'elle est vraiment intéressante à observer. Souvent, on peut regarder Mars et la simple impression que nous donne Mars, c'est de voir un petit confetti rouge, quoi. Donc là, ça a véritablement aucun intérêt lorsqu'elle est très éloignée de la Terre.
En général,
on peut rappeler, oui, c'est un petit point rouge. On peut rappeler que la planète Mars s'appelle ainsi parce qu'elle est rouge, justement. Et on peut même préciser pour les chimistes que c'est de l'oxyde de fer. En fait, c'est un oxyde hydraté, mais c'est un peu de la rouille. En fait, Mars est une planète rouillée.
C'est lié aux roches, ouais.
Je peux même ajouter un petit point de biologiste, c'est que Mars est rouillé comme le sang est rouillé. C'est pour ça qu'il est rouge, parce qu'il y a un atome de fer rouillé dans le sang. Voilà,
pour finir ton explication, Daniel, elle est rouge, parce que donc il y a l'oxyde de fer, et on l'appelait rouge, on l'appelait Mars, puisque Mars est le lieu de la guerre, donc quand il y a une guerre, pour l'instant, il y a beaucoup de
sang. En effet, je n'avais pas terminé mon explication. Juste un point encore, tu parlais de diamètre, Frédéric. Tu parlais de diamètre apparent, ça c'est comment elle nous apparaît dans la visée. En fait, son diamètre réel, il est d'à peu près 7000 km. Alors là, il va me dire encore, non, c'est pas 7000, c'est 6000.
Ouais, non, là, je pourrais pas te sortir le chiffre exact.
C'est bien fait.
Ceux-là, je les connais pas, mais par contre, je pourrais te sortir le diamètre apparent de la prochaine opposition, le diamètre maximum qui est de 20,8
secondes. Oui, mais ça change tous les 8 jours.
Voilà, donc... parler un peu quand même de l'observation de Mars et qu'est-ce qu'on peut y observer, je dirais, lorsqu'on est dans ces positions favorables. Tout d'abord, savoir que, je dirais, la planète Mars est un peu comme la Terre, elle a un cycle de saison. C'est-à-dire que sur Mars, un mois dure à peu près 2 mois, si je veux être clair. C'est-à-dire que...
Oui, parce qu'en fait, l'année dure 2 ans, tout simplement.
L'année dure 2 ans. Ouais. On met
2 ans à tourner autour du Soleil.
Voilà, on a une opposition à peu près tous les 26 mois. Quoi. Ouais.
Donc, tu parlais de saison aussi, c'est dû à l'inclinaison de l'axe nord-sud sur l'horizontale, un peu comme la Terre.
Hein. Elle est très, très, très voisine. Hein. Je ne sais plus exactement l'angle, mais l'angle approche aussi les 25 degrés hein, pour Mars. Donc c'est un peu une raison de ces saisons sur Mars.
Ah, donc les rayons du Soleil sont plus ou moins inclinés sur l'hémisphère nord ou sud selon la position de la planète sur son orbite.
Alors je dirais c'est l'effet de la voir à différentes saisons, ça a aussi beaucoup d'influence sur ce qu'on appelle la première chose, je dirais, qui est assez marquante quand on regarde Mars, ce sont les calottes polaires. Donc c'est deux dépôts, je dirais, de neige carbonique qu'on voit au nord et au sud de la planète.
Ce sont du dioxyde de carbone, du gaz carbonique gelé. Hein, c'est de la neige carbonique. C'est très froid, c'est moins 170, je crois, par là.
Quelque chose comme ça, mais c'est vrai que c'est...
C'est pas chaud.
C'est pas très très chaud.
C'est même recouvert, je crois, de glace d'eau.
Il y a aussi de la vapeur d'eau, ça c'est clair. Donc sur ces, ça sont les deux premières formations assez remarquables qu'on peut voir sur Mars, avec par exemple un télescope type 115-900, donc les premiers télescopes pour débuter. Donc là on voit, je dirais, les points blancs au nord ou au sud de la planète selon, je dirais, l'inclinaison de la planète et sa visibilité depuis la Terre. Quoi.
Un 115-900, on va le rappeler, c'est 115 centimètres.
Millimètres pour le diamètre du miroir.
Le diamètre du miroir et 900 millimètres de distance focale. Donc c'est à peu près moins d'un mètre. Hein, pour un astronome qui fait à peu près 10 centimètres.
Quand on parle de 115-900, c'est un peu les petits télescopes qu'on trouve, couramment dans le commerce et qui sont des très bons télescopes pour débuter et se familiariser avec l'observation. Donc sur les calottes polaires, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a l'impression de voir ces comme deux petits points blancs au nord ou au sud de la planète, et en réalité on voit des fois pas directement cette calotte polaire. Bien souvent on voit les nuages qui sont au-dessus de la calotte polaire. Car il faut savoir que...
Il y a de la condensation.
Je dirais, il y a un cycle de saison sur Mars, et que ce cycle de saison influence, le cycle climat. Des calottes polaires. Donc elle passe par une période de formation et une période de fonte. Donc à une période, lors de la période de formation, on a un très gros, très grosse couverture nuageuse au-dessus de ces calottes polaires, et la calotte se forme en dessous de ces nuages. Et c'est qu'à, je dirais qu'à partir de, par exemple pour la calotte nord, c'est qu'à partir de je dirais printemps-été, qu'on commence véritablement à voir la calotte en elle-même. Parce que le dépôt nuageux qui se trouve au-dessus de la calotte va disparaître progressivement.
Il faut quand même bien rappeler quand même que Mars a une atmosphère, c'est pour ça que tu parles de nuages, etc.
Par rapport
à la Lune qui n'a pas d'atmosphère.
C'est une atmosphère effectivement de dioxyde de carbone, de gaz carbonique, mais très ténue. Hein. Je crois que la pression atmosphérique est très très faible, j'ai oublié le rapport.
Je ne sais plus exactement, mais je sais que...
Ça permet d'avoir des nuages.
C'est plus de 95%, c'est du gaz carbonique, hein, si je ne me trompe pas.
Voilà, mais sur une pression globalement qui est extrêmement faible, à tel point que l'eau, elle bout. Vous savez que quand, dans une cocotte minute, quand vous augmentez la pression, l'eau bout à une température plus élevée. À l'inverse, si vous diminuez la pression, l'eau bout à température plus faible. Et il arrive même que la pression est tellement faible que l'eau bout à 0 degré. C'est-à-dire qu'elle se transforme direct de glace en vapeur. C'est ce qui se passe sur Mars.
Ce qu'on appelle la sublimation.
Sublimation. Et puis comme ça, il n'y a pas d'eau liquide sur Mars. Enfin,
passage du solide.
Sauf de très rares occasions.
Voilà.
Donc alors on observe les calottes.
Alors ça c'est la première chose qu'on
peut... C'est pas parce que c'est Pâques et qu'on t'a parlé de clergé tout à l'heure. C'est une plaisanterie stupide, excusez-moi.
Donc c'est la première chose, je dirais, observable sur la planète. Les deuxièmes formations caractéristiques, c'est la surface en elle-même, où on voit lors de ces oppositions assez facilement des différences d'albédo, donc des différences de teinte. Sur
albédo,
la planète.
C'est le pouvoir réfléchissant.
Voilà.
La surface.
Qui font qu'on voit des zones plus ou moins sombres. Je dirais plutôt tirant sur le marron. Donc là, c'est la surface en elle-même. Alors, je dirais, on peut observer des formations caractéristiques qui sont très très connues, comme par exemple ce qu'on appelle Syrtis Major, qui est une grande région de Mars d'aspect un peu triangulaire. Qu'on voit, je dirais, très très facilement dans les télescopes. C'est l'une des formations qu'on voit la plus facilement. Alors il y a d'autres formations, par exemple au-dessus de Syrtis Major, on voit une très grande plaine blanche qu'on appelle Hellas. Donc c'est souvent assez caractéristique de la zone.
Ça, hélas.
Hélas, voilà. Hélas, mais on peut l'avoir quand même.
Je rappelle qu'on peut trouver des cartes de Mars. Hein. C'est ceux qui s'intéressent, c'est des posters, mettez ça dans votre chambre et vous apprenez par cœur les régions de Mars. Voilà, comme ça tous
et
les noms
après,
que vous citez, Frédéric, vous seront familiers.
Vous saurez qu'est-ce que vous pouvez observer. Alors ça c'est, je dirais, intéressant d'observer ces formations martiennes. Car on a noté, alors sur ce sol martien, je dirais premièrement des changements qui, sur de très très longues périodes, qu'on appelle un peu des changements séculaires. Donc là, on peut s'apercevoir que sur certaines zones, sur plusieurs oppositions, la formation, l'apparence de la surface dans la zone donnée va diminuer. Donc c'est très intéressant, je dirais, de comparer ça, alors à l'aide de dessins, à l'aide de photographie, bon, j'en parlerai peut-être si j'ai un peu le temps tout à l'heure, de comparer entre oppositions l'aspect de la surface. Alors ça peut être aussi lié, je dirais, au phénomène de un peu de saison où on a, avec, je dirais, la formation et la fonte des calottes, on peut avoir des albédos, donc des pouvoirs de
des zones plus ou moins réfléchissantes, voilà, plus ou moins claires,
qui,
en fait.
Voilà, qui changent d'aspect, qui ouais, deviennent beaucoup plus sombres ou beaucoup plus clairs, je dirais, en fonction un peu de la saison et en fonction de l'évolution des calottes martiennes, quoi.
Oui, parce que quand les calottes se subliment, donc quand leur gaz se relâche dans l'atmosphère à partir de la glace, en fait, elle devient un peu plus épaisse. Et alors, c'est l'occasion de, alors, il y a des différences en plus de température, alors ça fait de véritables tempêtes de sable, comme en même temps le sol, lui, il est gelé, mais quand c'est l'été martien, il se dégèle et puis la vapeur d'eau, le gaz remplit l'atmosphère et les poussières sont libérées.
Ça, c'est autre chose. Là, après, c'est des phénomènes météorologiques, mais c'est vrai que ça, c'est la dernière chose qui est vraiment, qui est, je dirais, facilement observable sur observable sur Mars, c'est d'observer ces phénomènes météorologiques. Alors, il y a deux types de phénomènes. Premièrement, justement, des phénomènes liés tout simplement à tout ce qui est sublimation de ces calottes, quoi. Donc on peut par exemple souvent noter dans certaines régions, souvent sur le bord de la planète, des brumes locales qui sont liées un peu à, je dirais, l'alternance jour-nuit, où la vapeur d'eau.
Oui, la température, en fait.
Oui, et puis la température, la vapeur d'eau a tendance à se sublimer et puis à former ces brumes qui vont disparaître dans la journée. Et on voit assez facilement ce genre de phénomène. Alors, par exemple, à la fin de l'été, lorsque les calottes sont à la fin, la calotte, par exemple, polaire nord est à la fin de sa fonte, quoi. Donc ça, c'est un des premiers phénomènes, et ça peut tourner en tempête. Donc là, on part toujours sur le même principe avec la vapeur d'eau, et on a ce qu'on appelle un courant ascendant, et les poussières du sol martien vont monter dans l'atmosphère. Et là, je dirais, on peut aller vers de véritables tempêtes. Par exemple, j'ai une anecdote assez marrante à ce propos-là, c'est qu'en 1974, il me semble, la sonde Mariner 4, qui était partie pour cartographier Mars, n'a rien vu. N'a rien vu de
la tombée un jour de tempête.
Voilà, parce qu'il y avait une très très grosse tempête, mais vraiment une très très grosse, parce qu'elle recouvrait quasiment l'ensemble de la planète. Et la sonde n'a pas été capable de cartographier la planète à cause de cette tempête.
Parce qu'elle y allait pour cartographier, voilà, le sol, et ça ne l'intéressait pas, voilà, d'avoir les nuages, quoi.
Voilà. Et je dirais, donc ces tempêtes peuvent quand même arriver à de très très grandes échelles. En 99, donc lors de la dernière opposition, Hubble avait fait une très belle photo justement d'une tempête qui évoluait du côté de la calotte polaire nord, quoi. Donc ça, c'est des phénomènes qu'il faut suivre un peu au jour le jour, quoi.
Alors, j'ai une petite question un petit peu vicieuse, en fait. Quel est l'intérêt pour l'amateur d'observer la planète Mars, étant donné que maintenant on a envoyé des sondes, on a des photos très rapprochées, est-ce que ça présente encore un intérêt? Je vais dire si, mais je dirai tout à l'heure pourquoi. Mais
moi, je dirais le simple plaisir, déjà. C'est ce qui, par exemple, ce qui peut être assez impressionnant, c'est de se dire c'est de voir, par exemple, le plus grand volcan du système solaire sur Mars.
Ça, c'est l'Olympus Mont Olympe, qui fait, je crois, 20 km de haut.
Hein, 20 km de haut.
C'est trois fois l'Himalaya.
Bon, c'est pas une observation très très facile, mais c'est quelque chose de faisable au niveau amateur. Rien que déjà de savoir que l'on regarde le plus grand volcan du système solaire, ça a quand même son intérêt. Mais c'est aussi, je dirais, ça peut aussi avoir un intérêt scientifique, par exemple, sur tout ce qui est phénomène météorologique.
Oui, parce que là, en fait, on accède, c'est ce que j'allais dire, on accède à des phénomènes globaux qui ne sont pas pris en compte par les petits engins qui se posent sur Mars. D'autant plus qu'ils sont forcément en dessous des nuages. Et donc on a accès à d'autres phénomènes en fait. Les observations sont complémentaires.
Ça peut nous permettre aussi de comprendre tout à fait la climatologie sur Mars, bien qu'on arrive, on a un peu de mal à la comprendre sur Terre, mais on comprendra peut-être mieux sur Mars.
Ou sur Terre grâce à Mars.
Voilà,
il y aura moins de chances de se tromper. En tout cas, on ne sera pas en dessous si on se trompe.
Mais donc toutes ces observations là. Je dirais, profitez-en lors de la prochaine opposition.
C'est quelle période alors, tu peux rappeler?
Dès maintenant. Je dirais, la planète fait à l'heure actuelle déjà plus de 10 secondes d'arc, ce qui est déjà accessible pour de bonnes observations. Donc vous pouvez déjà commencer à l'observer, à faire du dessin, à faire de la photo.
Un tiers de lune, ça, pratiquement.
Oh, 10 secondes d'arc, non, c'est très très petit.
Non, c'est très petit.
La Lune, une seconde d'arc, une minute d'arc, c'est 60 secondes d'arc.
Ah oui, en fait, c'est 30 minutes d'arc, la Lune.
Oui, c'est 30 minutes d'arc, donc c'est vraiment très très petit.
En effet, oui.
Vraiment très très petit.
Donc, merci Frédéric, on y reviendra peut-être tout à l'heure, si on a encore des choses à dire.
On pourra parler un peu de dessin, de photographie.
Oui, d'autant plus qu'on vous fera une émission, enfin lors d'une émission, on vous parlera de dessin martien. On peut juste rappeler que pour ceux qui ont internet, alors j'ai pas les adresses de site, il y en a une foultitude, où vous faites un moteur de recherche, vous cherchez les images de Mars, vous allez avoir des images extraordinairement détaillées.
Je peux même vous conseiller un petit site qui est assez bien fait, qui est le site de la LPO. Donc c'est une association, je dirais, américaine qui observe les planètes et la Lune. Et ils ont vraiment de très très bons résultats au niveau imagerie CCD sur la planète. Et on peut voir, je dirais, régulièrement des cartes entières de Mars faire avec des moyens amateurs.
Tu as l'adresse ou...
Comme ça, ça
non, mais donne un mot-clé pour que les gens puissent trouver.
ALPO.
ALPO, voilà.
ALPO, voilà. Vous tapez ALPO et puis vous allez trouver.
Dans votre outil de recherche favori.
Voilà, merci donc pour cette séquence sur Mars. Je crois qu'on va rappeler la question sur les calendriers pour gagner des places gratuites à la conférence.
De France en Saguerre qui va se dérouler le 27 avril. Donc la question est très simple, que veut dire le mot calendrier? Que veut dire le mot calendrier?
À l'origine.
Vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, et vous gagnez une place pour la conférence de François Saguerre qui va parler du calendrier, que je vous parlerai tout à l'heure pour vous inciter, vous expliquer, vous susciter des questions par rapport au calendrier.
Voilà. Et bien, je crois qu'on va faire une petite pause musicale. On va vous inviter à écouter Sting, Seven Days.
En rapport avec le calendrier.
Oui, les 7 jours. Allez.
Another man, but not in me. the mighty flea. Ask if I am mouse or man. The mirror squeaked away I ran. He'll murder me in time for his tea. Does it bother me at all? My rival is Neanderthal. It makes me think perhaps I need a drink. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for her hand. I feel I need that.
Voilà, c'était Seven Days de Sting. Seven Days, 7 jours, les 7 jours de la semaine. Nous sommes en plein dans le thème du calendrier qui a une folle histoire qui est liée à l'astronomie. Ce dont va nous parler François Suager, bien sûr, le 27 avril lors de sa conférence. Eh bien, avant cela, Thierry, tu es un spécialiste. Toi, tu as creusé le problème des calendriers. C'est vraiment une histoire passionnante. On dirait pas comme ça, hein. Mais c'est vrai que notre rythme du temps, notre mesure du temps avec ce fameux calendrier dit grégorien, mais je veux pas déflorer, hein, eh bien, c'est le résultat de tout des siècles de tâtonnements, hein. Allez, donc, c'est à Thierry, hein, qui va nous raconter cette histoire, mon cher Thierry. Alors, le calendrier, Thierry, c'est une histoire qui a quelles en ont été les grandes étapes.
C'est au début de l'humanité, c'est-à-dire dès qu'il y avait des gens, ils commençaient, en introduisant, il y avait des petits... Ah, donc, c'est très, très, très ancien.
On faisait ça, pas ça dans ses propres os, hein, je pense.
Bah, c'est rarement. Les gens, ou alors, hein, on ne sait jamais, dans des tribus plus ou moins primitives, ou alors sadomasochistes, on ne sait jamais. Donc, en fait, on va parler un peu de notre... Je parlais que de notre calendrier. Pour
c'est-à-dire le calendrier que tout le monde utilise. Hein.
Ce que vous avez chez vous, ou voilà. Ce que vous utilisez tous les jours pour travailler.
On appelle le calendrier grégorien.
Justement, vous expliquer pourquoi le calendrier grégorien. Je ne vais pas vous parler des autres calendriers, puisqu'il y en a des centaines, voire des milliers. Chaque tribu ou chaque civilisation ou chaque religion a son propre calendrier. Bon, il y en a encore quelques-uns qui sont utilisés, mais en fait, la mesure du temps est très, 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 très vaste. Donc, on va vous parler de notre calendrier, puisque François Saguer va, je pense, nous parler plus précisément du nôtre,
oui,
lors de sa venue de la conférence du 27 avril. Donc, je vais vous parler tout d'abord de François Saguer. qui est une astronome intéressante à écouter et passionnante en plus.
C'est une excellente conférencière.
Qui a surtout un sens pédagogique que devraient avoir tous les professeurs qui se respectent.
Elle est professeure de mathématiques.
Justement. J'avais commencé à faire ma liaison, mais vas-y, continue. Allez, professeur de mathématiques à Besançon, donc dans l'est de la France.
En Franche-Comté.
Et donc en Franche-Comté. Et en fait, elle est surtout aussi présidente de l'association astronomique de Franche-Comté, une association d'amateurs comme la SAN. Donc elle est aussi en fait présidente de l'association donc astronomique de Franche-Comté. Et en fait aussi, elle est titulaire d'une attestation d'études approfondies en mécanique céleste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est pas une amateur. Je ne sais pas si on peut dire matrice, oui, on va dire.
On va dire que c'est un amateur.
Confirmé ou chevronné, comme on dit. Ouais. Elle a aussi commis, comme on dit, plusieurs ouvrages, donc plusieurs ouvrages en co-auteur, dont un qui est sur le calendrier, et surtout un qui a fait des émules lors de sa venue de la dernière conférence. Elle est venue à la Société d'Astronomie de Nantes en avril 1998.
Elle nous avait parlé des
couleurs du ciel. C'était magnifique, elle nous parlait des arcs-en-ciel, tous les phénomènes lumineux qu'il y a dans le ciel. Il y a pas mal de choses.
Qu'on ne remarquait pas et que maintenant on commence à remarquer.
C'est ce qu'elle a dit quand elle a commencé. Ouais. Attention pour ceux qui écoutent la conférence, vous n'allez plus regarder le ciel comme avant. Donc cette personne-là aussi, elle est originaire de la série Les Tours du Ciel, Les Terres du Ciel ou Comètes de l'Histoire qui ont été diffusées à la télévision. Et en fait, elle a surtout une clarté de ses exposés qui est très intéressante.
Ah oui, elle est totalement, elle vous envoûte, elle est marrante en plus, elle a un accent.
Un petit accent,
elle est très drôle, elle est passionnée par ses sujets. Franchement, elle va vous emporter et n'hésitez pas, hein, parce que c'est des sujets qui ont l'apparence assez banale, en fait, ils sont passionnants.
Tout à fait, donc là, elle va vous parler le 27 avril, donc le vendredi, à la salle de Bretagne. Hein. Oui. Elle va vous parler
du 21h, d'ailleurs.
21h, tout à fait. De la petite histoire du calendrier, nous expliquer un peu qu'on est à l'aube du troisième millénaire, on est entre guillemets en plein dedans, et qu'en fait ça fait du bien un peu de se retourner sur ce qu'on existe avec toutes les incohérences plus ou moins compliquées de notre calendrier.
Les incohérences, et alors il y a aussi les lieux communs, et puis les idées reçues. Beaucoup de gens ne connaissent pas bien le calendrier. Juste un mot sur le titre, la petite histoire des calendriers, parce qu'il y a de la grande histoire, mais il y a aussi plein de petites anecdotes. Et moi, je voulais l'intituler la saga des calendriers, mon cher Thierry. Et sais-tu pourquoi je n'ai pas pu?
Oui, je sais. Parce que les auditeurs ne le savent pas.
C'était déjà un titre pour la science.
Tout à fait.
Hein, donc, on n'a pas pu le récupérer. Et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens en dehors de nous qui s'intéressent à cette histoire. On redécouvre, en fait.
Donc justement, pour les gens qui voudraient assister à la conférence, vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62. 02 40 93 26 62. Vous répondez à la question « Que veut dire le mot calendrier ?» Que veut dire le mot calendrier ? Et ensuite, vous nous redonnez cette réponse. Et en fait, vous gagnez une place pour la conférence du 27 avril. On va commencer à aborder le fameux calendrier, le nôtre, pour vous expliquer un peu, et surtout pour susciter des questions, vous donner envie d'assister à la conférence, que malheureusement, je n'aurai sûrement pas le temps d'aborder tous les points du calendrier, et François Sagan non plus, c'est très 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 vaste. Alors, moi je me souviens, quand on regardait les films, fameux films de cow-boy à la télévision, on voyait les Indiens qui leur parlaient « tu seras exécuté à la troisième lune » ou alors... Donc je me mettais quasiment à rire, parce que je leur dis « ils comptent en lune », ils sont un peu ridicules. Il faut savoir que notre calendrier... Eh bien, les premières bases, c'est la Lune.
On compte en Lune aussi.
On compte en Lune. C'est-à-dire un mois, comme en anglais, pour être sûr, un mois, ce qui se dit en anglais months, et en la Lune qui se dit moon, avec un accent
défiant. Attention, c'est un scoop, Thierry parle anglais. Ça me fait penser à Churchill à Strasbourg en 1945, qui s'adresse à la foule, qui a terrorisé son auditoire en prenant le micro et en braillant dans le micro. Mesdames, messieurs, attention! Alors tout le monde était là, mais qu'est-ce qui va se passer?
Tétanisé.
Je vais parler français. Eh bien, Thierry a parlé anglais.
Comme quoi. Donc en fait, c'est sûr, hein, les gens qui s'occupent de la sémantique des sont sûrs que la Lune, c'est bien le mois. Donc en fait, il faut savoir que les mois dans votre calendrier font à peu près 29, 30 ou 31 jours. Il faut savoir que la Lune, elle, c'est une lunaison, c'est-à-dire le passage entre deux pleines lunes ou deux nouvelles lunes, etc., ça dure à peu près 27 jours. Alors, pour avoir la valeur exacte, je vous la donne. C'est 29 jours plutôt. C'est 29 jours, 12 heures, 44 minutes. Ça, c'est le temps que met la Lune pour tourner sur elle-même. Mais pour qu'elle soit exactement au même endroit devant la Terre, eh bien, c'est un peu moins. Alors, donc c'est 29 jours approximativement que la Lune tourne sur elle-même, surtout que que la Lune tourne autour de la Terre, donc ça nous fait des phases différentes. Les quatre phases principales sont la pleine Lune, le premier dernier quartier, nouvelle Lune et premier quartier. Il faut savoir donc qu'il y a quatre phases principales, et les quatre phases principales nous donnent 4 semaines. Donc si vous prenez un jour approximativement de 28 jours, vous avez 4 semaines de 7 jours. Il faut savoir aussi que les jours de la semaine sont totalement dépendants des planètes du système solaire. Il faut savoir qu'à l'époque du calendrier, dans les premiers
planètes... Leur nom est basé, c'est ça?
Tout à fait, leur nom est basé sur les noms des planètes. Il faut savoir qu'en dans les premiers calendriers qui datent avant Jésus-Christ, les 5 planètes qui étaient découvertes, il n'y avait que 5 planètes, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait jusqu'à Saturne, Neptune, etc., n'étant visibles qu'avec des instruments d'optique. En fait, on ne pouvait pas les voir à l'œil nu.
D'autant plus que Uranus a été découvert dans les années 1700, la fin du 18e siècle, et Neptune a été découvert au 19e siècle.
Tout à fait.
Dans la moitié du 19e.
Et Pluton au 20e. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant à savoir qu'il n'y avait que 5 planètes de découverte à l'époque, ou de visibles, parce qu'il y avait quand même découvert que c'était des planètes. Et donc, aussi 2 astres importants qui sont la Lune et le Soleil. Pour en être sûr, il suffit de reprendre un peu les jours de la semaine dans l'ordre chronologique habituel, c'est-à-dire le lundi, c'est le jour de la Lune, le mardi, c'est le jour de Mars,
mercredi... Lunes, d'ailleurs, là, en espagnol, Lunes.
Tout à fait. Le jour de Mercure, jeudi, le jour de Jupiter, vendredi, le jour de Vénus. Il y en a 2 qui suivent.
J'étais en train de réfléchir sur jeudi, Jupiter. Alors, pourquoi les Anglais, ils disent Thursday? Bizarre ça.
Ça dépend des langues, tout n'est pas pareil. Donc jeudi c'est bien Jupiter, donc vendredi Vénus, samedi c'est Saturne, et dimanche qui est en fait maintenant devenu le jour dominical, le jour du Seigneur, mais qui encore en anglais est resté le Sunday, le jour du soleil.
Là c'est l'inverse, c'est l'inverse. Anglais qui ont gardé Sunday,
voilà.
Il fait pas toujours soleil le dimanche,
surtout en Angleterre.
Oui, voilà. C'est peut-être pour ça qu'ils sont nostalgiques.
Ouais, ils ont gardé. Voilà. Nous, il fait beau tout le temps les dimanches. Frédéric,
c'est bien connu. Il ne pleut jamais sur Nantes, n'est-ce pas, eux?
Ouais. Ouais, c'est bien connu qu'il fait beau les dimanches soirs.
C'est pour ça qu'il
est au boulot le lundi matin.
Voilà.
Ah oui. C'est peut-être parce qu'on avait un jour sans pollution. Non, il n'y a peut-être aucun rapport.
On va dire que si. Allez. Merci. Donc, il faut savoir que notre année, ce qu'on appelle un an, c'est la valeur que met la Terre pour tourner autour du Soleil.
Exact. Comment t'as su ça?
Je l'ai appris.
Ah voilà.
Quand j'étais jeune. Et après, ça se mesure à l'arrière. C'est tout simple à mesurer. Tout simple. Les gens l'ont su. Donc ça, c'est ce que je donne, ce qui se passe actuellement.
Et pourquoi est-ce que un cercle, ça fait 360 degrés?
C'est justement exactement le même principe. C'est
parce qu'on pensait que, en fait, c'était l'angle que parcourait la Terre en un jour. On croyait qu'il y avait 360 jours dans une année autrefois.
Quand je dis que c'est simple à mesurer maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez compliqué. Justement, je vais expliquer un peu pourquoi. En fait, l'année n'a pas toujours fait 365 jours et des brouettes. Il y a juste un gros problème, justement, sur le mot brouette, puisque chacun mettait un peu ce qu'il veut dedans.
Ouais, c'est
un langage technique de calendrier.
C'est un langage technique, allez, voilà. On va dire ça.
Hein, on va dire que c'est ça. Alors, donc, votre calendrier que vous avez actuellement, il est composé de 12 mois, qui sont approximativement de 30 jours, avec 4 semaines dedans, en moyenne, ce qui vous donne soit 52 semaines dans l'année, soit 53 semaines. Il y a des années à 53 semaines. Étant exactement pareil qu'il y a des années où il y a 52 phases de la Lune et d'autres, il y en a 53.
Ce sont les mêmes?
Ce sont les mêmes, approximativement les mêmes. Mmh. En sachant que maintenant, c'est complètement décalé, est-ce qu'on ne suit plus la Lune? Avant, c'est vrai que le premier jour du mois commençait au niveau de la pleine Lune. Alors, on va commencer maintenant par revenir totalement en arrière au moment de la création de Rome par Romulus.
Romulus
et Rémus. Ils fondent Rome, et en fait, au moment de la fondation de Rome, donc ils construisent, ils font plein de choses, hein, et en fait, ils s'occupent aussi du calendrier.
Faut pas confondre fonder Rome et fondre les cloches. Hein. Quand ils fondent les cloches, c'est pas pareil quand ils fondent Rome.
Non, on sait jamais, ils ont peut-être fondu leurs cloches pour faire des canons, comme pendant la Révolution française. Donc, Romulus fonde Rome, et en fait, il met 10 jours dans son calendrier. Les jours que l'année commence au mois de mars et finit au mois de décembre. Donc en fait, déjà, le problème...
Dis-moi
plutôt, pas 10 jours, excusez-moi, ah ouais, dis-moi.
J'étais en train de réfléchir, là.
Le problème qui se pose sur ce point-là, c'est qu'en fait, eux, ils n'avaient pas la mesure exacte de la révolution de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas exactement que ça faisait 365 jours.
Ils faisaient quand même un mois à chaque lunaison, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, mais ça faisait en gros 360 jours pour eux. Donc en fait, ils mettaient ça, plus quelques jours des Pouyem qu'ils mettaient en plus, pour tomber à peu près juste au niveau de la rotation.
Sur la lune d'après.
Voilà. Alors il faut savoir qu'en fait, que les pontifes, ils se servaient beaucoup de ce problème de calendrier pour les fraudes. Puisque en fait, vous aviez 10 mois, avec quelques jours en plus, et en fait il fallait bien sûr les réajuster régulièrement. Donc en fait les pontifes, certains, bah, pour augmenter leur temps d'utilisation, eh bien ils augmentaient les jours, ou alors ils les diminuaient. Et bien sûr, bah, quand vous aviez des dettes, eh bien fallait fatalement les payer à échéance, une certaine échéance. Donc dans ce cas là si c'était le pontife qui avait des dettes, il rajoutait des jours pour permettre de gagner un peu de temps pour les payer. Et puis donc, si c'était à l'inverse, quelqu'un lui enlevait, il en enlevait 3 ou 4. Comme ça, ça leur permettait de...
Mais parce que qui est-ce qui était maître du calendrier? Qui était maître du temps?
Et bien, c'était le pape. C'était
le pape.
Le pape. Ouais. Et donc, en fait, au moment à peu près de jusqu'à l'époque de Jules César, faut savoir qu'en fait, avec ces petites histoires de quelques jours qui se décalaient, les fêtes, il y avait quand même des fêtes lors des calendriers, et bien, ça devenait n'importe quoi. C'est-à-dire que la mousson était fêtée en plein hiver.
C'est-à-dire que...
Ils avaient décalé complètement. Il y avait, à la création du calendrier, ils avaient mis la mousson, ce fait au moment où il y a la mousson. Et en fait, avec tous les petits décalages, eh bien, on s'en trouvait qu'une année, la mousson s'est fêtée en plein hiver.
Mais la mousson à Rome, non, ça n'a rien à voir.
Ah si, si, si. Ils fêtaient quand même l'époque de la mousson ou du printemps, comme on veut, si tu préfères.
La moisson ou la mousson?
Mousson, je crois. La moisson.
Je suis perplexe. Bien, donc...
François Sayer nous en dira.
Nous le dira. On aurait dû mettre ça comme question pour gagner des places.
Voilà. Alors, arrive Jules César, qui quand même fait un peu le ménage. Il va créer lui-même ce qu'on appelle son calendrier julien.
Julien.
Qui est très connu, en fait. Donc, le calendrier julien, il remet tout en place. C'est-à-dire qu'il va mettre que l'année va durer 365 jours, 25.
Un quart. Quoi.
Un quart. Et c'est-à-dire, en fait, qu'il met un système où tous les 4 ans, eh bien, on va rajouter une année. C'est-à-dire qu'on aura 3 ans à 365 jours et une fois, une année à 366 comme on a actuellement. Le problème, c'est que le texte qu'il a rédigé n'est pas très clair et en fait, les gens comprennent l'inverse, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec 3 années à 366 et une à 365. C'est-à-dire qu'on commence à devenir, il commence à y avoir un complet décalage aussi.
Il y a un décalage de 3 jours dans l'autre sens.
Voilà, quoi, donc ça se décale complètement. Donc arrive à ce moment-là, donc après Jules César, arrive directement le pape, bah, directement dans la chronologie des calendriers, je saute les petites étapes bien sûr, le pape Grégoire XIII qui en 1582 remet un peu le point au niveau des calendriers puisqu'il commençait à y avoir un décalage de 10 jours. Suite au problème d'application du calendrier de Jules César. Et surtout, un deuxième problème, c'est-à-dire que le calendrier de Jules César disait 25 jours, on est bien d'accord? Sauf qu'il y a la rotation de la Terre autour du Soleil n'est pas de 365,25 jours, mais 365,24-22. C'est-à-dire qu'elle est un tout petit peu inférieure. C'est-à-dire en fait que le calendrier julien prenait de l'avance par rapport à la rotation de la Terre. Alors, le pape Grégoire XIII remet le point, et en fait, le lendemain de jeudi 4 avril 1582, c'est devenu le vendredi 15. C'est-à-dire en fait que le vendredi 5, etc., n'ont jamais existé en France et dans les autres pays. Il faut savoir en fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis au point le calendrier grégorien, et le changement qu'il a fait, il a simplement rajouté les années séculaires. Les années séculaires, c'est les années de siècle, et en fait, si elles sont divisibles par 400, eh bien, elles ne sont pas bissextiles. Elles sont bissextiles, et si elles ne sont pas divisibles par 400, elles ne le sont pas. C'est-à-dire que ça permettait de rattraper le petit 0,1 qui était un peu supérieur au temps de Jules César pour pouvoir récupérer régulièrement les petites informations. Avec ce système du calendrier grégorien, eh bien, nous avons une erreur que d'un jour tous les 3000 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a encore un peu de marge avant de pouvoir faire un réajustement. Donc, Jules César lui met bien en place les années bissextiles. Il explique bien que les années qui sont divisibles par 4 vont être bissextiles, que les années divisibles par 400, quand ils sont séculaires, le seront aussi. Par contre, les années séculaires qui finissent par 2-0 ne le seront pas. C'est-à-dire que 1800 a été bissextile, 1900 n'a pas été bissextile et 2000 a été bissextile. 2100 ne le sera pas non plus. D'accord ? Le problème, c'est que le calendrier grégorien, qui date de 1582,
qui a été mis en place
par le pape Grégoire XIII, voilà, n'est pas adopté par tout le monde en même temps. Il faut savoir, par exemple, que la Russie ne l'adopte qu'en février 1918, ce qui veut dire que la fameuse révolution d'octobre s'est en fait passée en novembre, puisque à la fin, ils ont obligé eux aussi de réajuster les dates.
On fait du révisionnisme, là.
On fait du révisionnisme, la révolution d'octobre s'est passée en novembre. Maintenant, on se retrouve avec un calendrier qui est à peu près simple, sauf que maintenant, on va regarder un peu les mois. Je vous ai dit tout à l'heure que mars...
L'année
commençait en mars.
Ouais. Elle commençait le 1er mars ou le 1er avril ?
1er mars, commençait le 1er mars. Les premiers mois ont été créés avec des noms qui étaient plus ou moins en rapport. Il faut savoir que notamment le mois de septembre, et le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre, il y avait aussi le mois quintilis et sextilis qui étaient le 5e, le 6e, donc septembre, le 7e, 8e, 9e et 10e mois. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Ça, c'est le calendrier.
Ça bip de partout.
Ah bah, c'est notre horloge qui nous rappelle. Donc, il ne nous rappelle rien du tout.
Non, je ne sais pas pourquoi.
C'est un bug du temps, mon cher.
C'est un bug du temps.
Nous sommes en plein dans le thème.
La pauvre, elle a du mal à suivre entre les 1582.
Elle a
mal à
changer de date.
Elle a changé de date. Donc, le calendrier se met en route au début, au mois de mars.
Il n'y a pas que le calendrier, n'est-ce pas ?
Non, il n'y a pas le calendrier. Et après, au mois de janvier. Ce qui veut dire, en fait, qu'on se retrouve avec le mois de septembre, qui était le 9e mois, qui était le 7e mois, qui devient maintenant le 9e. On est bien d'accord. Sauf qu'on est bien d'accord que c'est le septembre, c'est bien la racine du mot 7.
Ça veut dire 7.
Et octobre 8.
Octobre 8, novembre 9, décembre 10.
Décembre 10. Alors ensuite, il reste un dernier petit problème, pas des moindres, c'est-à-dire que pour remercier Jules César d'avoir fait un peu le ménage dans le calendrier, le mois qui s'appelait Quintilis, qui était le 5e de l'année, il l'affecte à Jules César, c'est-à-dire au mois de juillet, comme les Anglais disent July, qui correspond très bien à la racine de Jules César. Ouais. Donc là, tout le monde est content. Auguste, lui, derrière, l'empereur Auguste, fait un peu aussi le ménage dans le calendrier, et le problème, c'est que les gens leur affectent juste derrière le mois qui suit juste derrière, c'est-à-dire le mois d'août.
Qui est le 8e quand même. Qui est vraiment le 8e.
Maintenant, qui est le 8e, et avant, qui était le 6e. Le problème se posant, c'est que juillet avait 31 jours, et août en avait que 30.
Et on ne pouvait quand même pas faire ça.
Alors, le problème, oui, c'est qu'il y avait des partisans d'Auguste qui n'étaient pas contents du tout que Jules ait un jour de plus. Alors, je ne dis pas les gros débats au Sénat.
Puis, comme ils avaient des dettes, ils aimaient autant avoir un jour de plus.
Tout à fait. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le mois de février ayant tout le temps 29 jours, ils ont décidé de lui en enlever un encore et de lui mettre le mois de février. Ils enlèvent un jour et ils le donnent au mois d'août.
C'est février qui paye pour le jour de plus d'Auguste.
Voilà, le pauvre. Donc le mois de février, c'est celui qui était 30 à 29. Maintenant, il est passé de 29 à 28. Tout le monde le sait. Et pour finir, une dernière petite chose. Votre calendrier, si vous n'avez jamais le calendrier de la Poste, pour ne pas faire de publicité, eh bien, regardez-le avant de venir à la conférence de François Saguerre, puisqu'elle vous parlera du nombre d'or et puis de plein d'informations qui sont dedans et qui servent beaucoup pour plein d'autres choses.
Oui, parce qu'un jour, on reparlera de l'épacte, de plein de termes comme cela, qui sont d'ailleurs sur les anciens calendriers, et je regrette que de plus en plus, on trouve des calendriers stupides qui ne mettent même pas la Lune. Alors, à quoi ça peut servir un calendrier pareil, franchement.
C'est donc, vrai.
Voilà, exactement.
Raison, Daniel.
Ah, voilà, pour une fois que j'ai un mot astronomique. Eh bien, merci beaucoup Thierry pour cette saga. Vous voyez que les choses ne sont pas simples. On a presque tout compris, mon cher Thierry.
J'espère.
Mais vous comprendrez encore mieux, mais grâce maintenant à ce que vous a dit Thierry, vous serez des esprits éclairés lorsque vous viendrez à la conférence de François Suaguerre le 27, vendredi 27 avril prochain, à la salle Bretagne à 21h. Et pour gagner des places gratuites, on rappelle la question.
Que veut dire le mot calendrier ? Et vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, et on vous nous donnez la réponse à cette question, et on vous donne une place. J'ai déjà aidé un peu, si vous vous rappelez un peu des pontifs qui ont fait un peu leur sauce. On ne va pas les aider plus que ça.
Voilà, on va pas... Non, c'est pas la peine. Eh bien, place maintenant aux actualités astro, puisque notre ami Stéphane est enfin libéré de ses embouteillages. On a eu beaucoup... On avait craint que tu ne puisses pas venir, mon cher Stéphane. Donc, les actualités astro, tout de suite, avec notre ami Stéphane. Eh bien Stéphane, quelles sont les nouvelles fraîches de cette folle saga des cieux qui nous entoure ?
Bonsoir, on peut vraiment dire que c'est fou, puisque tout d'un coup, les astronomes ont découvert 11 planètes, 11 exoplanètes en dehors du système solaire. Elles sont situées dans la nébuleuse d'Orion, mais assez loin de chez nous. Et ce qui est étonnant, c'est que ces planètes sont sans étoiles.
C'est ça qui est fort, en fait.
Ce sont des planètes qui ont perdu leur étoile. C'est carrément des orphelines.
Voilà, oui. Et alors, ce qui remet en question plusieurs choses, notamment le vocabulaire. Par définition, une planète, c'est un astre qui tourne autour d'une étoile. Alors, comment appeler ces nouveaux astres ?
Mais ils tournent autour de quoi, alors ? Ils ne tournent pas, si ?
Si, ils tournent. Ils tournent, mais en fait, pour l'instant, autour de pas d'étoiles.
Mais c'est pas un trou noir, non ? Il n'y a pas une chose comme ça. Non, on ne sait pas.
Non, on ne les observe pas directement, donc on ne peut pas avoir de photos.
Une photo d'un trou noir ne serait pas très éloquente non plus, je crois.
Si, on l'a fait paraître dans un journal une fois.
Oui, c'est vrai. On a eu ce culot-là.
Culot-là de faire apparaître dans un journal avec quasiment en première page la première photo d'un trou noir. Il y avait un carré noir, c'était la photo du trou noir.
Ça ressemble au négatif de mes vacances dans les Alpes avec la fleur blanche et la vache blanche sur un pré couvert de neige. C'est ça. Voilà.
En tout cas, ces planètes orphelines pourraient être appelées planétoiles.
Planétoiles, pourquoi pas.
Ou d'autres moins romantiques proposent de les appeler sous-naines brunes.
Ouais, c'est moins romantique.
Le sous-naine, je trouve que c'est péjoratif, ça. Ouais. Déjà, naine, c'est pas terrible.
Naine brune, c'est pas génial. Alors, la sous-naine brune, vous habitez où ? Bah, la sous-naine brune numéro 4, en partant de la gauche, c'est agréable.
Donc, c'est ces fameuses planètes.
Mais ça nous en fait un paquet maintenant, là ?
Oui, 63.
Oula !
63, en tout, depuis le début, 63 systèmes planétaires.
Non, planète.
63 planètes.
Découvertes en dehors de l'une ou l'autre.
Autrement, vous savez que l'actualité se nourrit souvent du passé. Oui. Et la semaine dernière, nous avons célébré deux anniversaires. Le 12 avril.
Mais tiens, non, Daniel, c'était pas ton anniversaire non plus ?
Non, c'est pour ceux qui veulent me faire des cadeaux, c'est en novembre.
En effet, le 12 avril 1981 a eu lieu le premier vol d'une navette spatiale. Elle est américaine et s'appelle Columbia. C'était la première fois qu'on utilisait un engin réutilisable. Alors malgré des coûts importants et des problèmes technologiques, les navettes américaines ont réalisé 102 vols et ont transporté 600 astronautes pendant 20 ans.
C'est pas mal.
Mais ce jour-là, les Russes célébraient un autre anniversaire, puisque 20 ans avant, donc le 12 avril 1961...
Gagarine.
Voilà, un engin, il s'agissait du premier atterrissage d'un objet volant venant de l'espace. Des paysans russes ont trouvé bizarre, ils ont eu un peu peur, ils sont approchés, ils ont vu un homme en sortir, qui était Yuri Gagarine. Il venait de leur faire le tour de la Terre en 1h48.
C'était un vol assez court par rapport à ce qui se passe maintenant. Mais c'était le premier.
Oui, comme disait Coluche, il n'a vraiment pas eu de chance qu'il pourrait tomber en URSS.
Oh l'enfoiré. Pour retomber en URSS. Ouais. Elle est pas mal celle-là.
Il a tout essayé, tu vois, même d'aller dans l'espace. Mais je me souviens un peu avant, dans les années 57, je crois que c'est 57, il y avait Spoutnik. Hein.
Oui.
Premier satellite.
Et le nom de mon chat.
Ça, c'est de l'info. Hein.
Ça, c'est de l'info. Ça, c'est un scoop.
Ça, c'est un scoop.
Donc, mon cher Stéphane, pardon.
J'ai un autre scoop, parce que les anniversaires sont l'occasion de donner des anecdotes. Mm-hmm. J'ai appris que la famille Gagarine a appris la nouvelle à la radio, parce que Yuri Gagarine avait caché...
caché le fait qu'il partait dans l'espace.
Oui, il disait à tout le monde qu'il allait être pilote d'essai. Mais...
Il était d'ailleurs pilote de chasse. Hein. Il était pilote de chasse au départ.
Oui, c'était comme la plupart.
Comme la plupart des astronautes même d'ailleurs et des cosmonautes. Ah, donc si, en fait, la famille l'a appelé pris la radio.
Voilà,
c'est oui. Agréable. Bonjour maman.
Mais ils voulaient peut-être pas le dire pour pas les inquiéter, c'est ça, non ?
Oui, mais ils ont eu très peur ce jour-là.
T'imagines toi si on t'annonce que ton fils il est rendu, je sais pas combien de milliers de kilomètres.
Mes parents seraient fiers. Ouais.
Donc. Autrement, j'ai une nouvelle qui ne m'a pas fait rire. C'est arrivé le 1er avril.
Une vraie.
J'ai appris que des astronomes français ont eu la chance de voir une aurore boréale, une aurore polaire en France.
Bah oui.
Ce qui est assez rare. C'est un phénomène assez magnifique. Mais ce qui m'a fait le moins rire, c'est que ce phénomène s'est reproduit mercredi dernier dans ma région. Enfin, j'étais en Normandie et j'ai un ami qui a vu ces aurores, une aurore pendant 10 minutes.
Il faisait beau, t'étais ?
Enfin, oui,
c'est un. Mais il faisait dégoûtant le 1er avril, je crois. Hein.
C'est rare que ça descende aussi
le
bas.
Le 1er avril, non, il ne faisait pas beau, mais mercredi dernier, vers quelle heure s'est produit l'aurore ? Est-ce qu'on a une petite idée de.
Non, je ne sais pas. Je n'étais pas dehors, malheureusement.
C'est une aurore qui ne se produit pas forcément le matin, c'est ça, non ?
Oui, c'est ça qui est paradoxal par rapport au
moment. C'est vrai que ça peut se produire à n'importe quel moment de la nuit.
Voilà, c'est des aurores nocturnes.
Alors justement, cette personne est allée chercher sa femme pour lui demander la couleur, parce qu'il est daltonien.
Ah d'accord.
Alors, il n'y a pas...
Et donc elle était ?
Bon, d'après...
La femme, non ?
Oui, elle était rouge-orangée.
D'accord,
rouge-orangée. Il n'a pas duré longtemps. Voilà pour les principales nouvelles en astronomie.
Il y en a quelques-unes d'autres, on ne va pas les citer parce que ce n'est pas la peine de leur faire de la pub. Il y a George Bush qui est en train de mettre des coups de hache dans les crédits de la NASA.
Faire plaisir. Ah, parce qu'on pouvait encore en faire.
Ah oui, bah, c'est à partir du moment où il y a des sous, on peut en récupérer à droite à gauche. Donc,
l'homme redevient primitif. Alors, voilà. On pensait qu'il s'était élevé dans les cimaises de l'exploration de l'espace, qui restait le seul continent à conquérir. Mmh. Voilà qu'on se préoccupe hein, de petites choses. Eh bien, merci. Alors, à part les gouttes d'eau, mon cher Frédéric, qu'est-ce qui va nous tomber du ciel ce mois-ci ?
Tomber du ciel, je ne sais pas si tombera quelque chose.
C'est une chanson, ça. Hein.
Ça serait peut-être grave si tombait quelque chose
tomber du ciel. Tomber du ciel, dis-je
là. Bon, la première chose qu'on va pouvoir observer, je dirais un peu au niveau planète, c'est Vénus. Vénus qui va revenir dans le ciel du matin.
Elle va revenir, je vous remercie d'être Vénus.
Voilà, c'est le cas de le dire. Elle a été longuement observable, je dirais, dans le ciel du soir les derniers mois. Et là, elle est passée de l'autre côté du soleil et va être visible, je dirais, juste un peu avant l'aube.
On rappelle que Vénus, qui est la deuxième planète du système solaire, elle est à 100 millions de kilomètres, elle est entre nous et le Soleil, en fait.
Voilà. Hein.
Alors, selon les endroits où elle se trouve, on la voit entièrement quand elle est de l'autre côté du Soleil, on ne la voit pas du tout quand elle est strictement entre nous et le Soleil. Et alors, on la voit tantôt le soir comme première étoile, enfin, ce n'est pas une étoile, hein, mais...
C'est ce qu'on appelle
l'étoile du berger.
C'est
souvent le premier astre à briller le soir quand ce n'est pas Jupiter, qui est une autre planète très brillante.
Même Vénus brille
avant. Brille beaucoup plus.
Et
dans les lueurs du couchant, toujours, ou dans les lueurs du levant, comme c'est le cas ce mois-ci.
Comme c'est le cas ce mois-ci. Et là, c'est très très intéressant à observer, car elle vient justement de passer derrière le Soleil, et elle a un diamètre apparent très très important, qui frôle la minute d'arc, donc c'est vraiment très très important pour une planète. Hein. Et on peut voir, je dirais, comme sur la Lune,
croissant.
L'aspect d'un très fin croissant, mais vraiment très très fin, très 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 important, avec un diamètre apparent conséquent.
On peut commencer à le voir en faisant très attention avec des jumelles. Hein. On peut commencer, commencer.
Oui, ça devrait être observé avec des jumelles. Avec un diamètre aussi important, ça doit être faisable avec des jumelles.
On rappellera jamais assez que les jumelles, vous pouvez les utiliser pour l'astronomie. Hein. Premier, c'est l'œil, en deuxième, entre guillemets, c'est les jumelles.
Oui, voilà, si vous n'avez pas d'instrument,
des observations un peu difficiles comme ça, et quand même, essayez de les caler, parce que là, vous essayez de voir quand même des fins détails, même si c'est pas si c'est une planète, mais le diamètre apparent est quand même pas, aussi gros que si vous observiez la Lune. C'est un trentième du diamètre apparent de la Lune, quand même. Donc, n'hésitez pas à bien caler vos jumelles pour pouvoir les observer, facilement. Voilà, donc là, c'est la première chose. Reparler quand même un peu de Mars, parce que justement, on en a parlé tout à l'heure. La planète rouge est de retour. Il faut l'observer, je dirais, le matin. Elle n'est pas très très haute dans le ciel. elle n'est pas très très loin de, d'une étoile assez connue qui est Antares du Scorpion. Alors pourquoi vous parlez de, je dirais, de d'Antares? Tout simplement parce que Antares est à l'aspect un peu rougeâtre comme Mars. Alors on peut confondre les deux, mais Mars est beaucoup plus brillant à cette époque que Antares. Mars a passé, je dirais.
Et pourquoi on pourrait les confondre? Parce qu'Antares, comme Mars, c'est rouge, en fait.
Voilà, c'est rouge. Ouais.
Mais Antares, au contraire de Mars, qui est une planète, Antares, c'est une grosse étoile, super géante rouge.
Voilà. Et elles sont donc à peu près situées dans la même portion du ciel. Et par contre, Mars est là devenu beaucoup plus brillant que Antares. Elle a passé, je dirais, le cap de la magnitude zéro, qui est, je dirais, un peu en astronomie, signe que c'est un astre, là, je dirais, tout à fait brillant. Donc,
magnitude, c'est une échelle un peu.
C'est une échelle de luminosité. Mais lorsqu'on passe la magnitude zéro et on descend vers les magnitudes négatives, là, ça commence à devenir des objets.
Car plus c'est petit, la magnitude, plus c'est brillant.
Voilà.
Que le Soleil, c'est moins 27.
L'échelle est inverse, voilà. Le Soleil fait moins 27 et la Lune à peu près moins 12, voire même un peu plus, quoi. Donc, Mars a observé, je dirais, le matin, et puis profiter de son diamètre apparent. Là, bon, je vous parlais tout à l'heure de 10 secondes. À la fin du mois, elle approchera déjà les 14 secondes, donc c'est à peu près le diamètre apparent, on n'est pas très loin du diamètre apparent qu'on avait en 99. Donc ça laisse supposer que, moi ça va même pas laisser supposer, c'est que dans quelques mois, lors de l'opposition, le diamètre apparent sera beaucoup plus conséquent que celui de 99. Ouais,
ce que tu veux dire, le maximum donc, sera voilà. Ben, là actuellement on arrive au maximum de 99.
De 99, ouais. On n'en est plus très très loin à la fin du mois, quoi. Donc là on va vers une opposition beaucoup plus favorable au niveau diamètre. Alors dernière petite chose, Stéphane m'a un peu soufflé l'idée tout à l'heure. C'est vrai qu'on a parlé récemment d'aurore polaire. Donc là c'est des phénomènes liés, je dirais, au Soleil. Tout simplement des...
Qui ionisent l'atmosphère.
Voilà.
Électrisent l'atmosphère.
Des éruptions de matière qui électrisent un peu l'atmosphère. Et ces éruptions sont aussi liées à l'aspect du Soleil. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on a des grosses éruptions qui forment les aurores polaires, on a souvent des grosses taches sur le Soleil. Et lors justement de l'avant-dernière, celle du 1er avril, on avait une magnifique tache solaire visible sur le Soleil. C'est même l'une des plus grosses jamais observées. Et c'est ce qui a provoqué l'éruption et l'aurore polaire sur la Terre.
Oui, parce que les éruptions solaires, en fait, sont liées aux taches qui sont des zones de perturbation magnétique très intenses. Donc, il se produit, on n'a pas encore tout expliqué, hein, mais il y a des espèces de phénomènes sismiques, magnétiques à l'intérieur du Soleil, qui provoquent des ruptures d'équilibre, des éruptions solaires, et après, ça rejaillit même sur les ondes radio. Enfin, les radioamateurs le sentent. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. D'ailleurs, il peut y avoir des perturbations dans les transmissions radio à la surface de la Terre. Donc, ce vent solaire, ce vent d'ondes et de particules qui nous atteint, perturbe la magnétosphère terrestre. Et c'est ce qui provoque ces fameuses
aurores polaires. Ouais. Qu'est-ce qu'une aurore polaire, quand même, décrire un peu?
Parce qu'elle est surtout polaire, mais elle peut descendre.
Elle peut descendre, oui. Alors là, on parle plus d'aurore polaire, mais plus d'aurore boréale, carrément. Car l'aurore a été visible dans des régions, je dirais, un peu plus basses que les régions polaires. Et ces aurores apparaissent un peu comme des draperies lumineuses de différentes couleurs. Alors les dernières observées avaient plus une teinte rougeâtre orange, mais il arrive aussi qu'on en voit avec des teintes assez verdâtres, quoi. Donc là, ça peut prendre des couleurs, je dirais, un peu différentes selon l'aurore, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire pour ce mois-ci, en souhaitant justement que le beau temps revienne, mais ça commence à revenir un petit peu.
On passe plein de maintenant dans quelques jours.
Faut pas être trop pessimiste. Donc
oui, mais ça, on n'a pas à se plaindre, puisque le plus grand nombre de sociétés d'astronomie au kilomètre carré, ou disons par unité de surface de pays, c'est encore en Hollande et dans ces pays-là. Donc franchement,
hein. Donc observez Vénus, observez Mars, et puis veillez si je dirais on a des signes de d'aurore polaire dans les jours qui viennent.
Pour l'observation
Merci,
de Mars.
Excuse-moi d'ailleurs. Oui.
Pour l'observation de Mars, Régis nous en parlera dans la prochaine émission dans 15 jours.
Oui, voilà.
Pour l'observation de l'opposition, exactement.
Voilà. Voilà, on ne va pas lâcher Mars comme ça. D'ailleurs, on a plein de choses à vous dire sur les planètes. Merci Frédéric. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout à l'heure? Parce que je crois que tout à l'heure, tu n'avais pas tout
non,
à fait
fini. Non, moi j'avais à peu près tout dit. Bon, c'est vrai que j'aurais voulu peut-être un peu parler des techniques qui sont associées à
rapidement, on a quelques minutes.
Si on a quelques
encore,
minutes, oui, on a quelques
minutes. 2-3 minutes pour en
surtout,
parler.
Surtout parler, bon, je vais pas parler de photos, mais je vais plutôt parler un peu de dessin, qui est une très bonne technique pour, je dirais, pour l'astronome amateur et qui reflète très bien ce que vous observez réellement. Alors c'est pas quelque chose de très très facile quand même. C'est quelque chose qui se fait à force d'habitude.
Il faut apprendre à regarder.
Voilà, hein. Faut apprendre à regarder.
On peut rappeler aussi que bon, tout le monde pense à la photo, mais le problème de la photographie, c'est que ça intègre, comme on dit, c'est-à-dire que quand il y a des turbulences dans l'atmosphère terrestre, la photo, elle va prendre tout ça, elle va moyenner tous ces effets-là, alors que l'œil va capter le trou de turbulence, il va capter la structure, il va se rappeler, et quand on transcrit par dessin, on est souvent plus précis. Ensuite, le dessin, c'est ce qu'on utilise en médecine ou en biologie, ça vous apprend à regarder. Et à force, on finit par savoir interpréter. Quoi.
C'est sûr. Moi, avant de faire un dessin de Mars, d'abord, il faut observer Mars. Il ne faut pas hésiter à prendre une heure, voire une heure et demie, à observer, à regarder les détails. Et c'est qu'après qu'on va se lancer dans le dessin de la planète et qu'on va, je dirais, noter tous les détails qu'on peut y voir. Alors là, il y a aussi une méthode à respecter où on commence par dessiner les grandes formations et après on dessine les fins détails.
Il faut savoir que pour le mois prochain, je te coupe deux secondes, pour le mois prochain sur le site internet de la SAN, il y aura une page complète pour expliquer comment dessiner et en plus il y aura des gabarits téléchargeables, c'est-à-dire que pour dessiner, il suffit d'avoir plein d'informations et puis d'avoir surtout le cercle prédéfini voilà, avec les coordonnées et puis plein de petites informations et vous pourrez les récupérer sur internet et puis les imprimer à votre guise.
Voilà, donc ça c'est une bonne chose, c'est un des outils.
C'est pour le mois prochain parce qu'il y a opposition de Mars.
Pour dessiner les planètes. Donc par rapport à cela, il ne faut pas non plus faire un dessin qui va durer 2-3 heures parce que la planète Mars tourne. Donc il ne faut pas, je dirais, dépasser les 20-25 minutes grand maximum. Quoi. Parce qu'autrement, on va dessiner des formations qui apparaissaient au début du dessin et qui, à la fin, seraient peut-être plus visibles sur la planète.
La planète tourne sur elle-même, donc en fait,
on voit pas. À peu près 24 heures 37, donc c'est à peu près...
À peu près 37
C'est à peu près, je dirais, la vitesse de rotation de la Terre, un peu plus que la Terre, quoi.
Voilà.
Bon, c'est quelques conseils donnés comme ça, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler
dans
un peu plus précisément.
Voilà, puis vous pouvez en avoir beaucoup des conseils si vous venez nous voir. Ça va être bientôt la fin de cette émission. Donc je vous remercie de l'avoir suivi, comme on dit bêtement, dans tous les journaux télévisés. Hein. Mais enfin, bon, c'est vrai, hein. Les gens ont du mérite de t'avoir écouté, Thierry.
Tout à fait.
Donc
merci,
je rappelle.
Je le note.
Et en anglais en plus.
Hein. Thierry a parlé anglais. Donc vous avez entendu Thierry parler de la folle histoire des calendriers, la petite histoire. Vous avez entendu Frédéric Brion parler de la planète Mars, du ciel du mois. Stéphane Lenay nous ramener les dernières actus astro. Merci à tous, tout le monde. Je remercierai aussi, je vais le faire tout de suite, la technique, notre ami Claudie et puis...
son acolyte, Maël.
Et alors, si vous voulez avoir beaucoup, beaucoup plus de conférences, enfin
de conférences, vas-y.
Sur des détails, donc d'observations, si vous voulez en savoir plus long, venez nous voir au 35 boulevard Louis Millet tous les vendredis soirs. C'est dans la mairie de Doulon à partir de 20h30. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 02 40 68 91 20. Et pour mieux nous connaître aussi, venez sur notre site internet, hein, HTTP, etc., etc. C'est san-fr.com. Et alors, je vous rappelle bien sûr que notre prochaine conférence, c'est Françoise Suaguer, la petite histoire des calendriers, à la salle Bretagne le vendredi 27 mars à 21h.
Avril, mais c'est pas grave, vas-y.
27 avril, j'ai tellement parlé de. J'ai tellement la planète Mars en terre, c'est dans, en avril, donc dans un peu plus de 10 jours. Le gagnant de la place gratuite à cette conférence, c'est Nicolas Blin de Vertou. Hein, Nicolas, donc on sera heureux de l'accueillir.
On va lui envoyer une
place. On va lui envoyer sa place gratuite hein, pour le 27 mars. Il peut même l'offrir hein, avec un nœud autour s'il veut. Voilà, donc la prochaine émission aura lieu lundi 30 avril, hein, donc dans, on va pas dire 15 jours, puisqu'une semaine fait que 7 jours, mon cher Thierry.
Tout à fait.
Dans 14 jours, à 21h10, sous nos étoiles, à 98.1, sur Alternante FM. Merci, merci de nous avoir suivis. À bientôt, chers amis.
Maintenant, vous retrouvez Straight Talk.